de risquer la parole et de risquer la blessure, mais important. Une autre question. Le rôle de la foi chrétienne par rapport à l'insignifiance. Peut-être que c'est bien que certains prennent la parole, non, pour réagir en voix propre, plutôt que me laisser toujours parler. Qu'en pense Timothée? Ok. Donc, réaction de vive voix hein, pour ceux qui le souhaitent.
Moi, je veux...
Non, pardon, vas-y.
Ouais, je vais... Bon, déjà, frère David, je suis très, très heureuse.
Oui, ça m'a fait plaisir de t'apercevoir.
Ben voilà, maintenant la joie. Par rapport à ce que dit Jésus à Pierre et Jésus qui redescend, je t'aime ouais. bien, ouais. Ben, en fait, j'arrive pas à saisir. Enfin, il se déçoit pas du peu d'amour que Pierre peut lui donner ou, enfin...
Oui, c'est un peu ça. Il se dit, mais c'est bien, on va tabler là-dessus. Il n'en est que là, et ben moi je vais aller là, et puis c'est tout. Mais c'est formidable, pensez que c'est Jésus qui vient au niveau de celui qui commence le chemin. On est toujours au début du chemin. L'agapé, l'amour parfait, ben c'est très beau, mais c'est pour le ciel. Hein. Jusque-là, nous, on fait des petits pas.
Merci.
Merci. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les uns ou les autres, de la foi chrétienne et l'insignifiance généralisée? Vous le sentez, ça, ou c'est moi qui fais du roman parce que je suis dans mon monastère perdu, un peu loin de tout? Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand même, qu'on est de plus en plus dans un monde où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut en faire? Ouais.
C'est vrai que... Oui, mais je suis muet.
Non, j'entends. On entend. Michel. Ouais.
Il y a eu une émission il y a quelque temps sur l'origine de l'univers et de la vie, l'origine de la vie, où on voyait les millions de galaxies qui nous entourent et le nombre de planètes, et le nombre de... Enfin, c'était du quark au quasar, ça allait de l'infiniment grand à l'infiniment petit et... Franchement, moi, ça m'a vraiment demandé une relecture de la Genèse, quoi. Une nouvelle lecture, franchement, parce que tout dépend de la lecture de la Genèse, on s'en aperçoit, plus on vieillit, plus on étudie les textes, tout dépend de Bereshit, du commencement, quoi. Et cette émission-là, vraiment incité à avoir un autre regard, quoi. Je veux dire, il faut tout reprendre, je dis presque à la base, quoi. C'est vraiment quand on voit l'origine de la vie, l'origine de l'immensité de l'univers et effectivement notre insignifiance. Moi, j'appelle ça la minusculité de l'homme. Voilà.
Ah oui.
Ma question.
Il me semble que c'est peut-être Dieu qu'on va revisiter à travers tout ça. C'est-à-dire que notre Dieu, on l'avait mis quand même finalement comme un super-homme, quoi. Espèce de super géant, mais ça restait quand même à notre mesure. Alors qu'avec cette déconnexion obligée, avec les commencements, on se dit, mais là-dedans, Dieu, s'il est, alors effectivement, il est d'une discrétion incroyable. Il est bien clair qu'on ne va pas le voir surgir au détour du bois, quoi. Il s'est mis d'emblée dans des conditions de ne pas être découvert comme un grand magicien. On a été pris dans un tourbillon d'histoire et pour moi, ça rejoint même l'histoire de la rédaction des textes sacrés. Quand on voit aujourd'hui le travail sur... l'origine des évangiles, qui est Matthieu, qui est Marc, qui est Luc, etc., on se rend compte, oui, ce sont des êtres de chair et de sang qui ont écrit ça, donc finalement, tout, Isaïe aussi, Jérémie aussi, tous nos textes sacrés, c'est bien la main de l'homme qui les a mis par écrit. Dieu a voulu que son témoin, ce soit les hommes. Ce sont les hommes eux-mêmes qui parlent de Dieu, et c'est la façon dont il a envie de se laisser découvrir, non pas comme Deus ex machina qui envoie un gros coup de spot pour dire « moi, je suis comme ça, et maintenant, vous vous tenez à carreau », mais non, il laisse les hommes le découvrir petit à petit, parler de lui, et je crois qu'il corrige le portrait petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'est quand même pas brillant, il y a quand même beaucoup de violence, il y a le Dieu du Premier Testament, quand on lit bien les textes, il n'est pas sympa du tout, enfin, il est même horrible, affreux, atroce. Mais petit à petit, le projet se corrige, et évidemment, quand Jésus en parle, ça devient quand même un peu plus proche de ce qui est acceptable. C'est le jour du nettoyage le samedi chez nous, alors on entend des grands bruits, c'est des coups de balai dans le couloir.
Oui, je ne sais pas si on m'entend.
Oui.
Oui. Vous avez dit, et bien sûr je partage, que Jésus se mettait à descendait pour accompagner là où ils en étaient, Pierre et Paul. Et il a fondé son église sur cet amour, pas aussi grand que le sien. Bon, voilà, c'est vachement fort. Mais quand je vois maintenant que finalement l'église elle-même ne fait pas cette démarche pour bénir des unions homosexuelles ou bien pour bénir des couples qui sont remariés après un divorce, c'est de l'amour qui est peut-être pas au niveau de l'amour complètement de Dieu, pourquoi pas. D'ailleurs, est-on jamais à cette dimension, qu'on soit marié par un sacrement ou pas, on n'est jamais à cette dimension. Alors, je trouve que c'est un peu contradictoire quand même. Le fondement de l'Église a été à ce moment-là fondé justement sur des imperfections de l'amour, et maintenant on continue je sais pas, c'est contradictoire complet.
Oui, je comprends bien ce que cette tension-là entre ce que je présente comme l'origine de l'Église et puis la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, hein. Entre les deux, moi je vois surtout l'espèce de mystère des sacrements, c'est-à-dire que quand je regarde, pareil, j'écoute mon évangile, je ne vois pas beaucoup de sacrements hein, dans mon évangile. Je vois le baptême, je vois la communion, l'Eucharistie, et puis pour le reste, j'ouvre grand les yeux, mais je ne vois pas. Donc, c'est vrai que quand l'Église est devenue institution, et ça a été un processus qui a duré plusieurs siècles, elle a développé une sacramentalité, c'est-à-dire des signes. Les signes qui sont pour nous, ils ne sont pas pour le bon Dieu, ils sont pour nous, les signes. Les sacrements, ce n'est pas au bon Dieu que ça fait chaud ou froid, c'est à nous. C'est pour nous aider. Si ça ne nous aide pas, il faut les laisser tomber. Parce qu'on est devenu une institution multinationale énorme, avec des cultures très différentes aussi, la culture africaine, la culture asiatique, la culture occidentale, ça se rencontre dans l'Église, mais ce n'est pas d'emblée, de plein pied, accordé. Alors, la sacramentalité aujourd'hui, je crois que c'est le point où ça résiste et où ça. C'est un peu la tectonique des plaques. Vous voyez, ça frotte et ça fait des volcans aux endroits où ça frotte. Parce que on est forcément en retard sur l'amour de Dieu. Les sacrements, c'est une cristallisation. Je ne sais pas comment dire. Il y a l'amour au centre, mais c'est une grosse dragée. Il y a beaucoup trop de sucre maintenant. Vous voyez, il y a une trop grosse dragée sacramentelle. Et on ne sent même plus qu'au centre, il y a de l'amour tout pur. C'est des mauvaises dragées où il n'y a que du sucre jusqu'au bout. Mais peut-être que nous, et dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, on a peut-être à ne pas survaloriser justement le sacrement. C'est-à-dire à ne pas prendre la religion, la sacramentalité pour le propre de la religion de Jésus le Christ. Ce n'est pas le cœur du message. On a accès à Jésus, et évidemment que l'Eucharistie, l'accès à l'Eucharistie pour les divorcés mariés ou des points comme ça sont excessivement sensibles. Il me semble que peut-être ça bouge un tout petit peu, j'en sais rien, je ne suis pas trop au courant, mais en tout cas ça questionne très fort dans le peuple chrétien lui-même, au moins en Occident, au moins en France. Mais l'accès, par exemple, à la parole de Dieu, ça alors c'est curieux, parce que au XVIe siècle, XVIIe tourne, il n'y avait plus tellement cette chose-là. Il y avait une belle efflorescence à la Renaissance quand même, avec la redécouverte des langues et tout, mais qu'on puisse avoir tous accès à la parole de Dieu, ouvrir son évangile, j'ai le droit, c'est fait pour moi, c'est une parole de vie pour moi, ça c'est important, ça c'est, tous les chrétiens ont accès, personne ne peut me l'empêcher. Et il me semble que ça doit corriger un peu la survalorisation de la sacramentalité. Voilà ce que je peux risquer. Merci.
Et du coup, j'aurais aussi une question par rapport à ça. Sur la tradition dans la foi catholique, il y a à la fois les Écritures, mais à la fois la tradition. Contrairement aux protestants, où c'est sola scriptura, juste l'Écriture. Alors, est-ce que la tradition n'est pas un frein à la responsabilité et à l'audace de la responsabilité, en se disant, si je vais contre la tradition, si je prends la responsabilité en tant que baptisé d'aller contre la tradition, parce que je trouve que la tradition me coupe de l'amour de Dieu, est-ce que du coup je suis en dehors de l'Église? Et est-ce que ce n'est pas un frein à cette responsabilité? Ou est-ce que c'est une aide? Quel est votre avis?
Alors, quand on parle tradition, mon talisman, c'est une phrase de saint Irénée de Lyon, donc ça vient de loin, hein, on est au IIe siècle, saint Irénée de Lyon. La tradition est une liqueur qui rajeunit le vase qui la contient. Ça, c'est très très beau, ça, c'est dans ses écrits les plus célèbres. La tradition est une liqueur qui rajeunit le vase qui la contient. Il faut bien comprendre que le mot tradition, qu'est-ce qu'il veut dire ? Tradition, ça veut dire transmission, transmettre, tradere, transmettre. Si la tradition est vivante, alors on est continuellement en état de transmission. Et c'est là qu'il y a rajeunissement. C'est que dans le fait de transmettre, il y a du neuf. Il y a un acte culturel qui fait qu'un autre prend le relais, le voit différemment. Et la tradition, c'est tout sauf une chose, vous voyez, c'est pas le vase. C'est une liqueur qui rajeunit le vase qui la contient. Seulement, il faut qu'elle soit mise en... Je pense que le Concile Vatican II a été un acte de la grande tradition de l'Église, parce qu'on s'est remis à repenser les choses. Mais ce n'est pas fini pour autant. Ce n'est pas le dogme, la tradition. C'est tout le contraire. C'est le fait que je ne suis chrétien que si je transmets ma foi. Et dans l'acte même de rencontrer X, Y, Z, une personne africaine, une personne vietnamienne, et d'essayer de lui dire qui est Jésus le Christ, forcément, ma foi à moi va se transformer. Parce que pour lui, alors il va prendre des couleurs, une visibilité différente. Et je vais grandir, et on va s'approcher de l'amour, peut-être, ensemble, un peu.
Moi, pour réagir un peu à la question de la gratuité et de la responsabilité aussi, j'ai vraiment l'intuition et le sentiment qu'on est dans un temps favorable à véritablement accueillir notre responsabilité dans notre foi chrétienne. L'exemple pratique, c'est le fait de ne pas pouvoir aller à la messe pendant tout le confinement l'année dernière. Ça nous a obligés à réfléchir à notre relation à l'Église, à la communauté et au sacrement et à l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça signifiait comment on pouvait véritablement vivre notre foi, et on était confronté à une distance, et la notion du corps, la notion de partage. Et ça, moi, ça m'a fait gagner en liberté, et on, toutes les questions de culpabilité, ça les a un peu balayées. Et cette question, enfin, en plus le fait que tu parles très délicatement, mais très clairement, la question de la sexualité, et cette question et de la parole aussi du Christ, hein, le Christ qui est vraiment parole, et de ce... Et là, la sexualité, il n'y a aucun sentiment de culpabilité, mais c'est vraiment dans une, un don extrême. Et que là, il n'y a pas de jugement, et on est vraiment en capacité de recevoir et de donner, et que toute notre dimension chrétienne, alors qu'on soit homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, enfant, parent, enfin, et que c'est dans notre relation au Christ que quelque chose peut effleurer et être dans le don véritable.
Ce que tu dis, j'aimerais réagir, tu vois, par rapport à la, justement, à la place de la sexualité dans, le, dans l'univers religieux où nous sommes. Dans l'Évangile, la sexualité n'a pas une importance énorme. Il n'en est pas question à toutes les trois pages. Je veux dire, Jésus ne s'intéresse pas beaucoup à ça, c'est pas absolument au centre, même si son enseignement est un peu révolutionnaire par rapport au judaïsme, notamment quant aux arrangements sur les lettres de répudiation, etc., et que lui dit non, ce que Dieu a uni, Dieu l'a uni pour toujours, etc. Donc il met la barre très très haut. L'amour, ce qu'il veut voir, lui, c'est l'amour originaire, c'est-à-dire l'amour au moment de la création, était à une température extraordinaire de perfection, de gratuité. Voilà. Il ne faut pas en déroger. C'est-à-dire que ce bien, ce bonheur, cet extraordinaire de l'amour, il ne faut pas le défigurer avec toutes nos petites lois d'arrangement. C'est ça que j'entends dans sa querelle avec les lettres de répudiation. Nos petits arrangements, ce n'est pas ça la religion qui intéresse Jésus. Alors, est-ce que c'est autorisé l'union de deux êtres, une union homosexuelle, est-ce qu'elle peut être bénie, etc. Je crois que ça ne l'intéresse pas énormément. Ce n'est pas ça sa question. Sa question, c'est, tu veux vivre en fille de Dieu, en fils de Dieu, tu as un projet de bonheur pour tes proches, tu es responsable de ta vie, tu prends ta vie en main. Voilà, là, ben, vas-y, et annonce la bonne nouvelle que Dieu aime. Et qu'il a envie que les hommes soient heureux, mais qu'ils en prennent les moyens aussi. C'est tout ça à la fois. Hein. Mais bon, j'en parlerai un petit peu dans le livre Désir, là, dont j'ai parlé. Il y a un petit chapitre au milieu qui est un peu une espèce de querelle entre le vieux moine et le jeune moine qui sont tous les deux en moi. Mais je pense à un sujet, par exemple, qu'aujourd'hui est quand même un peu dépassé, et tout, la masturbation. Bah, la Bible s'en fout, mais s'en triple fout. Où est-ce qu'on va trouver ça? Le livre fait 4000 pages, mais dans les 4000 pages, il n'y en a pas une consacrée à ça. Il y a trois lignes, et ce n'est même pas consacré à ça. On raconte une histoire où? Mais c'est rien du tout. Et c'est absolument obvious. Alors, c'est là où ça ne m'intéresse plus, les histoires du XVIe et du XVIIe qui vont ergoter sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu. Il me semble que le Christ nous appelle à l'amour, et puis après, il est aussi notre Créateur. Il ne nous a pas fait par hasard. Alors, il y a des différences à vivre qui sont douloureuses, qui mettent en jeu la société d'une façon ou d'une autre, qui valent en retour des réactions violentes, des actes violents. Ça n'empêche pas que, fondamentalement, l'appel à la vie, on ne peut pas mettre la sexualité totalement sous couvercle et puis dire c'est fini, c'est verrouillé. L'homme est mort quand on a fait tout ça. Donc, il faut que ça respire quelque part. Alors, on a des voies pour que tout l'être respire, mais aujourd'hui, on est quand même dans une époque belle. On a de la chance peut-être d'avoir une parole possible sur des sujets où ben, il y a même 20 ans, 30 ans, c'était difficile. Mais je suis un vieux maintenant. D'autres questions peut-être? Je vous vois perplexe, j'espère que je choque personne. Je suis un vieux moine, alors trop libre.
Il y avait une question ce matin aussi encore. sur la question de l'obéissance et sur la place de l'obéissance dans l'Église en devenir. Vous avez parlé ce matin de l'obéissance dans l'Église depuis Constantin, qui a peut-être pu, à certains moments, être déviée. Et quelle est la juste place de l'obéissance dans l'Église en devenir ?
Mmh. Très intéressant. Puis ça me remet les pendules à l'heure parce que il faut jamais oublier l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2, c'est-à-dire il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors c'est pas le Christ qui parle, c'est les héritiers du Christ, c'est saint Paul ou c'est peut-être une hymne plus ancienne que saint Paul. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et ce qu'on peut appeler l'acte d'obéissance parfait que nous reprenons dans le Notre Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. À Gethsémani, Jésus dit que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, mais la tienne. Donc là, il y a un acte d'obéissance extrême, on peut dire absolument central pour notre foi et qui semble dépasser l'humain, tant il est héroïque, cette obéissance de la croix. Alors, il me semble que là, on touche vraiment à la dimension extrême de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il est sauvé par la croix du Christ, un acte qui le dépasse. Et chaque fois qu'on évoque la croix, on évoque... À vue humaine, c'est inconcevable, quoi. Ce Dieu qui prend cette place-là, qui accepte d'aller jusque-là pour nous dire son amour, c'est un peu inimaginable. Donc, mais c'est l'obéissance du Christ. J'ai beau dire dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je ne prétends pas être capable de faire ça tout seul. Mais la grâce, oui, la grâce en moi peut m'amener à poser des actes d'obéissance nombreux et peut-être parfois héroïques d'une certaine façon. Mais ce n'est pas moi tout seul. Et c'est là où je disais que la morale chrétienne, c'est une morale de la grâce, c'est-à-dire il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint s'en mêle. L'Esprit, il intervient dans ma vie pour me faire poser des actes qui étaient bien plus que ce que j'aurais voulu, moi. Il m'a fait dire oui, il m'a fait consentir. Souvent, c'est des consentements. C'est pas tant des... oui, je crois que la forme la plus fréquente de l'obéissance chrétienne, c'est le consentement. Tu me demandes ça, et ben, allez, d'accord. Et le consentement, c'est très beau, hein. Quand on donne son consentement pour un mariage, on donne son consentement, c'est un mot fort. Eh bien, je crois que c'est souvent ça qui se passe. L'Esprit est avec nous pour nous faire consentir à des situations, et d'abord consentir à une réalité personnelle, à nos limites, à nos conditionnements. On marche avec ça. Et là, on est déjà, je trouve, dans la suite du Christ. Marcher avec ce qu'on est, et pas avec un vieux rêve. C'est important. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon un peu oblique, mais enfin, on est parti de l'obéissance. La croix, pour moi, l'obéissance, c'est beaucoup un acte second. Ouais. Plutôt que dire « je vais obéir de toute façon », c'est plutôt « je consens aujourd'hui à ça et demain, je vais encore consentir à autre chose, c'est possible. » Mais ouais. Et j'écoute, c'est ça notre forme humble de l'obéissance, c'est dire j'écoute, ouais, j'écoute quand même. Il a dit des belles choses d'ailleurs le pape François sur l'encyclique sur la famille, des choses comme ça. Hein. Il y a pas que des... Ça a d'ailleurs surpris la liberté de ton de ce texte. Hein. Donc, j'écoute. Ça vaut la peine, c'est déjà de l'obéissance si j'écoute un peu ce qui est dit. Et je trouve aussi que les grands dicastères romains, là, la sacrée congrégation, la congrégation de la doctrine de la foi, elle se fait un peu plus discrète depuis des années. Et ça fait du bien. On est content. Peut-être que petit à petit, il y a des choses qui vont un petit peu se calmer. Mais... Autre question. Là, je ne comprends pas trop l'image de la dragée sacramentelle. Je pense que c'est une blague un peu. Hein. Ça se croque ou ça se suce? Ben moi, j'aime les dragées qui croquent avec une grosse amande et peu de sucre. Et j'aimerais que les sacrements soient comme... C'est une des questions écrites là, hein, sur la droite. J'aimerais que les sacrements, ce soit beaucoup d'amande et peu de sucre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... on n'en finit pas d'avoir du sucre. Et trop, beaucoup trop, beaucoup trop.
Ben, du coup, je complète.
Oui.
Je complète ma question.
D'accord.
C'est que je pense qu'il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps à la maturation. On laisse du temps à un vin pour être bon. On laisse du temps à un fromage pour être bon. Laissons du temps à notre Église pour avancer.
Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est très sage. Très sage. Merci.
Oui, je peux parler. Oui, mais je pense qu'il faut laisser du temps. Mais je, bien sûr, en tant que femme, je sais bien qu'un bébé, ça se fait en 9 mois. Mais n'empêche, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement qui se fait et que le pape vraiment veut promouvoir, c'est la place de la femme dans l'Église. Il essaye de faire tout ce qu'il peut et il fait tout ce qu'il peut, mais je crois que nous, femmes, nous avons vraiment à prendre conscience de notre place en tant que laïques dans l'Église et à le faire. Et ça, c'est de notre responsabilité. Toi qui parles de responsabilité, je pense que là, il est temps maintenant. Et il ne faut pas le rater, quoi. Bon, alors, évidemment, je suis une vieille femme aujourd'hui, mais s'il n'y avait pas eu les suffragettes, je ne voterais pas aujourd'hui. Donc, il faut vraiment agir maintenant pour les générations futures de femmes et d'hommes, parce que, bon, évidemment, c'est une parité. Voilà.
Merci. Oui. Bien d'accord.
Ça me donne envie aussi de... Ça me donne envie de dire aussi que toute tension est intéressante. Parce que, bon, moi, vraiment, ce matin, j'étais très touché par le fait de dire que la responsabilité est responsable quelqu'un qui aussi est capable de donner des réponses. Donc, est capable aussi peut-être d'écouter, de dialoguer, de ne pas s'isoler et en fait d'essayer d'articuler tout ça en faisant sa part. Alors, pas la part de tout le monde, parce que l'insignifiance, au niveau du monde, oui, mais au niveau individuel, évidemment pas. Enfin, et on sait bien que comme on est tous singuliers et qu'on est le temple de Dieu, donc forcément, notre singularité, elle est la meilleure réponse. Et puis le fait de laisser le Seigneur œuvrer en nous ou faire à travers nous, c'est la meilleure manière de dire qu'on n'est pas insignifiant. Mais je trouve que les tensions, j'ai l'impression que les tensions ou les difficultés qu'on a, heureusement, nous tiennent éveillés et après nous font forcément essayer de trouver des réponses. Comme disait Maggie, mais d'autres, le fait de devoir... de ne pas pouvoir s'endormir, mais de devoir peut-être se battre ou de trouver des solutions, c'est être vivant. Donc voilà, je trouve que ça
là, on rejoint l'audace, finalement.
Et voilà, exactement. Ouais.
Ça demande une audace, oui, pour ne pas simplement se résigner. Un chrétien n'est pas une personne résignée, je crois, quelle que soit sa situation. On n'a pas le droit de se résigner.
Oui, et puis aussi l'idée de chercher, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il me vient juste en tête que récemment, excusez-moi, je partage ça, mais il y a un lien, qu'un couple d'amis était venu, on discutait, puis en fait, il passait un moment difficile, mais en fait, on sentait qu'ils se battaient pour essayer de se comprendre et de se parler. Eh bien, moi, j'ai qu'une chose qui m'est venue en tête, c'est de leur dire, ben, en fait, là, vous êtes en train de vous aimer. Voilà. Donc, en fait, chercher des solutions en permanence, c'est être en lien, c'est s'aimer, c'est aller l'un vers l'autre. C'est, voilà, on parle du couple, mais ça pourrait être n'importe qui. Mais ça qui me vient. Et avec l'Église, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette Église, nous, on voit bien l'association, c'est compliqué, mais on passe notre temps à essayer, puis on dit toujours, ben, ah, l'Église, c'est nous. Et voilà, donc en fait, on l'aime et on a envie de la faire évoluer.
J'ai été très touché par ce que vous avez dit sur le chant, c'est l'entrée dans le temps du Seigneur. Qu'est-ce que vous auriez à l'esprit comme texte, voilà, qui, d'après vous, qui mettent le mieux en relation la musique et la grâce?
J'en ai un sous les yeux, je peux lire?
Oui.
Mais l'auteur n'est pas au-dessus de tout soupçon. Enfin, je veux dire, c'est un spirituel qui était un peu sulfureux, pour je ne sais pas quelle raison, des raisons, je crois, de dogme, hein, pas des raisons, ni rien de... aucune suspicion d'ordre personnel, mais c'est le père Molinier, ça vous dit quelque chose? C'est plus son prénom. Il avait écrit ça, quand même un livre qui a beaucoup... Le courage d'avoir peur. Mmh. C'est ce livre-là dans lequel j'ai pris ça. Alors, il nous dit ça. Il nous dit, Dieu fait tout par mode de surabondance, en agissant purement pour la joie et pour l'amour d'agir, et non pas avec la passion fiévreuse de ceux qui poursuivent un résultat. Dieu nous offre, par surabondance, de collaborer à cette surabondance par mode de surabondance, c'est-à-dire de chant. Ceux qui sauvent les âmes sont ceux qui chantent. Et ce n'est pas la souffrance qui donne du prix à leur chant, c'est le fait de chanter par amour qui donne du prix à leur souffrance. Chanter leur donne, à l'école du Christ, de devenir un écho de la louange trinitaire. Ça, je trouve que c'est beau.
Merci.
C'est beau. Alors, il termine en disant « Telle est la seule morale que Dieu nous propose avec la plus implacable rigueur. Ce n'est pas pour rire qu'il nous demande de rire, de donner dans la joie. C'est extrêmement grave parce que c'est éternel et que le moindre repli volontaire par lequel nous échappons si facilement à la joie fait pleurer l'amour de Dieu. » Donc, il met ça très haut, vous voyez, c'est le chant. C'est l'acte de grâce qui me remet dans le courant de la vie et dans le courant dans le courant le plus fondamental de l'action de Dieu en ce monde, qui est de chercher à faire le bonheur de l'homme. Il nous faut l'y aider. C'est peut-être un peu idéaliste, hein, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Voilà, on est peut-être au bout des questions, hein, ou d'autres réactions.
J'ai bien aimé quand vous avez dit tout à l'heure que quand on chante, même dans une chorale peu importante de 40 personnes, on sent sa voix décuplée, quoi, décuplée.
Ah oui.
C'est vraiment ça, quoi. On est 10 fois plus que d'être tout seul, quoi. Mmh. Mais on sent sa propre voix qui est transformée par le cœur, quoi. Mmh. J'ai chanté une messe de Charpentier dans une église à Stuttgart, une fois avec une chorale, orchestre et tout à la tribune. C'était cette impression d'être 10 fois moi-même, quoi, tout d'un coup.
Mmh. Les peuples du Nord ont plus que nous, hein, l'expérience de ce plaisir du chant, que ce soit les Allemands, les Tchèques, les Slaves, les Danois. Les Français, on est un peu à la traîne, on n'est ni les Italiens ni les Allemands. On est un peu pauvres pour ça.
Si vous me permettez une question plus personnelle, qu'est-ce qui vous a donné l'audace d'entrer dans la vie monastique plutôt que le prêtre de quartier.
Alors, je donne la réponse dans un livre qui paraît en juin, en mai. Non, parce que
on l'achètera quand même.
Oui. Ça s'appellera « Si tu veux la vie ». Et c'est l'histoire un peu, ben, entre autres, hein, de... C'est un peu mon histoire aussi. Et donc, ben c'est pas une histoire linéaire du tout. C'est beaucoup de chaos. C'est beaucoup de chaos, ouais. Mais c'est pour ça que ça n'a pas non plus un intérêt. C'est pas exemplaire et c'est pas copiable. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu du mal au début, puisque j'ai fait deux noviciats. Et que... qu'après, j'ai consenti. Mais c'était pas, ça n'avait rien d'une évidence. Maëla.
Oui, sur l'héritage. Là, on est en plein carême, donc je trouve que c'est toujours un temps parfait pour se mettre à l'écoute et en disponibilité. Et voilà, l'Église, qu'est-ce qu'on peut transformer de cet héritage? Comment on peut être fils et fille de Dieu, véritablement, qu'est-ce qu'on peut prendre, transformer de l'héritage de l'Église, de ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut, à notre humble mesure, hein, des 50 ou 30 ans qui nous restent à vivre concrètement au jour le jour, tel que tu nous l'as appelé ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je vous ai remarqué tout à l'heure, et ça m'a tout à fait frappé, l'expérience de la pandémie depuis un an, nous a déjà obligés, qu'on le veuille ou non, à regarder différemment notre participation au culte, donc notre vie religieuse, hein, notre façon d'être en lien avec le Christ. Il me semble qu'une attention vraiment forte à ce phénomène peut aider l'Église aussi à faire des mutations importantes. C'est-à-dire ne pas dire vivement que ce soit fini et qu'on revienne tout comme avant, parce que justement, ce ne sera jamais comme avant. Il y a un avant et il y a un après. On nous dit qu'il y a 30 ou 40% des chrétiens qui ont disparu des assemblées dominicales. Donc, c'est, à mon avis, ils sont toujours chrétiens, justement. C'est ça qui est très important de saisir. Ils sont toujours chrétiens, mais ils ont trouvé une autre manière de l'être. Et il faut simplement que... je dis « nous » parce que je me sens religieux et prêtre, et donc, on est les serviteurs de cette Église en recherche, mais pour une fois qu'on est précédé par d'autres qui font des expériences, il faudrait prendre le temps de les écouter ce coup-ci. Plutôt que de dire « revenez vite parce que c'est chez nous que ça se passe ». Ben non, si je dis « revenez vite parce que c'est chez nous que ça se passe », c'est que je n'ai rien compris à ce que la Providence essayait de me dire, à savoir qu'il y a des chemins multiples et qu'il faut dresser l'oreille. Mais je pense qu'on dresse l'oreille. Enfin, il y a des journalistes, il y a des théologiens, il y a des gens qui creusent. Mais c'est important que des laïcs, simplement, dans leur pratique, se questionnent sur « et moi, qu'est-ce que ça me fait à ma pratique ? Qu'est-ce que ça va changer ?» J'étais très frappé au tout début de la première pandémie, enfin du premier confinement, par la prière en famille, qui avait retrouvé une petite place pour beaucoup de familles, dans quelque chose de très simple et de très humble, qui était la prière en famille. Mais c'est formidable, si la pandémie nous vaut d'avoir redécouvert ça, c'est pas rien. Je pense que la célébration aussi va falloir un peu, je sais pas, va falloir non, mais des choses vont changer. Guettons les signes, guetteurs de signes. On verra bien ce qui en adviendra.
Moi, j'aurais encore une réflexion sur l'héritage, pour remonter sur ce que dit Maëla. Je trouve ça un peu dur parfois. C'est lourd, un héritage. On n'est pas toujours prêt à recevoir l'héritage de ses parents, par exemple, parce qu'il n'y a pas que, l'argent. Il y a l'histoire derrière. Et vis-à-vis du Christ, et vis-à-vis de l'Église aussi, cet héritage, il est lourd parfois à porter. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, mais comment, enfin, si ce n'est comment faire pour accepter cet héritage de l'Église qui est parfois et lourd à porter pour nous qui sommes parfois dans la marge, à la périphérie, et pour tout chrétien, parce que tout chrétien est à un moment donné dans sa vie à la périphérie, et tout le monde est au bout d'un moment la brebis perdue. Et on a cette impression de cette Église puissante, forte, dogmatique, qui nous dit le Christ est là et c'est nous. Et alors, c'est lourd. Et du coup, je trouve que la responsabilité, notre responsabilité, peut en être amoindrie parce qu'on se dit, c'est trop.
Ça se fera sans nous, quoi.
Ouais, ça sera sans moi. Je préfère ma petite Église dans mon coin avec mes potes. On va prier ensemble et on sera très bien et Jésus nous écoute plutôt que faire partie de cet héritage. Voilà. Alors, est-ce que des petites pistes peut-être pour accepter ça?
Ouais. Alors, peut-être d'abord redire que dans mon esprit, l'héritage, c'est d'abord l'Esprit Saint. C'est l'Église, bien sûr, mais c'est l'Église animée de l'Esprit Saint. Parce que quand le Christ dit tout ce qui est à toi est à moi, c'est pas l'institution Église qu'il est en train de choisifier, c'est vraiment l'Esprit Saint en réalité qui nous échappe, qui est là pour nous échapper. Donc, quand moi je reçois l'Église, il n'y a pas d'esprit sans corps. Donc, l'Esprit Saint, il est dans ce corps qu'est l'Église, dans ce corps du Christ qu'est l'Église. C'est là qu'il se manifeste. Donc, c'est effectivement par là l'héritage, c'est aussi l'Église. Donc, j'ai à recevoir tout ça à la fois. Mais c'est un tout ça qui est vivant, quoi. Et si ce n'est pas vivant, on n'a aucun scrupule à le laisser tomber. C'est pas un sépulcre. C'est pas une cathédrale désaffectée. C'est un corps vivant. Et c'est en tant qu'il est vivant que j'ai à m'y intéresser. C'est pour ça que ça passe par des hommes et des femmes, des relations vivantes. Tel prêtre, telle personne qui m'a aidé ou qui est chrétien convaincu et dont la parole me provoque. C'est vraiment cette église des pierres vivantes qui est intéressante. Souvent, il me vient l'image, moi, de la dogmatique et de la théologie chrétienne, qui est d'un raffinement extraordinaire, c'est une merveille. Il y a des tas de chrétiens, d'ailleurs, des religieux souvent, des prêtres, qui vont passer leur vie entière dans des recherches théologiques extrêmement pointues, historiques et tout, mais pour le non-chrétien qui en prend connaissance, c'est comme demander à un bouddhiste d'entrer dans une cathédrale gothique et de lui demander s'il a bien perçu exactement le rôle des arcs-boutants et la façon dont c'était construit et tout ça. On est perdu quand on rentre dans un tel bâtiment. Dans la théologie, c'est pareil. Alors, le Christ, lui, il n'a pas fait une théologie. Il a fait une façon d'être chrétien, ce que Christophe Théobald appelle un style, c'est-à-dire le fait que le chrétien, ça se reconnaît dans une certaine façon de lier connaissance, de prendre contact, d'annoncer le bonheur, je ne sais pas, peut-être. C'est des pierres vivantes, tout ça. Et il me semble qu'il ne faut pas quitter cet horizon de la vie. Pour s'emparer de l'héritage. Parce que ça ne sert à rien de sauver la vaisselle et de la sacristie.
Moi, je voulais juste faire une remarque et par rapport à ce que vous disiez ce matin sur l'histoire rabbinique, justement.
Ah oui,
ça vient un petit peu en écho à ce que vous venez de dire. Finalement, je pense que notre vie en Église à chacun actuellement, un jour, ça va devenir aussi quelque chose qu'on va transmettre et donc ça va faire partie de l'héritage. Et d'une certaine manière, je me dis que la manière dont le fils du rabbin a vécu, enfin, il a transmis, pour lui, c'était la même chose, mais les gens d'à côté, ils pensaient que c'était différent.
Ouais, ouais.
Finalement, ce message, peut-être, cet héritage d'amour de l'Église, peut-être que nous aussi, on l'enrichit en fait dans notre manière de vivre en Église et que le fait de l'avoir transmis à un moment donné, eh ben, ça va faire que cet héritage sera d'autant plus parlant peut-être pour les générations à venir. Donc, je me demande si ce dynamisme-là de l'héritage ne permet pas aussi bah, de se dire que c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, quoi. Et qui même si ça se transmet, ben,
on rejoint l'image de la liqueur de la tradition, quoi, qui rajeunit le vase qui la contient, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que la tradition est transmission qu'elle est, on ne peut pas la chosifier, on ne peut pas la bloquer comme un trésor mis dans une chasse définitive. Non, c'est quelque chose qui est fluide par essence. Et fluide parce que ça fait partie du vivant et nous sommes des vivants, donc ça se transforme en permanence. Ouais. Je pense que c'est à cette tradition-là qu'il faut s'attacher et aussi dans laquelle on peut espérer puisque, comme vous dites, vous y mettez votre propre pierre, d'une certaine façon, dans la mesure où déjà vous transmettez cette bonne nouvelle d'être chrétien avec vos mots à vous et votre façon d'appréhender la réalité du Christ comme bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est pas exactement comme l'aurait fait il y a un siècle un chrétien de France. Ouais. Merci. Ouais. On ne bloque pas, ou du moins on n'a jamais à soi seul non plus la responsabilité même de cette transmission. Celui qui parle comme chrétien, il sait qu'il n'est pas tout seul. Moi, je parle comme un frère d'une communauté de moines, donc c'est déjà un peu particulier. Bon, mais un chrétien, il n'est pas non plus solitaire face au Christ et à l'Écriture. Il est lui aussi rattaché à d'autres chrétiens, à un groupe, à une histoire personnelle. Donc, c'est important de le faire sentir aussi quand on témoigne, qu'on n'est pas un isolé, illuminé. Sinon, on tombe dans l'illuminisme. Et il y en aurait un tout seul qui a reçu la grâce, pof, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Plutôt dialogue, échange, enrichissement mutuel. Voilà. D'autres questions? Ou c'est le temps de conclure déjà, non?
Bah ça va, oui, ça arrive nouvelles... de conclure. Il est déjà 15h45.
Ouais.
J'ai vu que Dominique avait allumé son micro à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas du tout s'il veut... Si tu veux poser une question, Dominique, ou si c'est.
Je ne sais pas comment le brancher.
On t'entend en tout cas. On t'entend. Est-ce que tu veux poser une question?
Non, je n'ai pas de question. J'ai juste une page d'un livre que je voudrais juste évoquer là. Un Dieu érotique. Eh bien, en ce sens, la réponse, Dieu est érotique. Il se manifeste comme invisible et visible. Dans l'ambiguïté d'une manière clignotante, pour ainsi dire. Il se révèle à nous, mais il garde son énigme. Nous le découvrons en deux sens de ce mot. Il se retire en même temps. La caresse dont je parlais tout à l'heure dans ce livre correspond à l'attitude de l'homme face à cette énigme divine. C'est un extrait d'un livre écrit là par le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin.
Ouaknin, oui.
Vous connaissez, hein,
oui, oui, oui.
Ben, je ne l'ai pas encore lu, je découvre avec vous, merci de m'avoir permis de lire ce livre dans lequel il a contribué avec Jean Bottero et Joseph Moing, jésuite.
Ouais. Voilà, dont j'ai cité tout à l'heure un passage, Joseph Moing.
Ah, ouais. Ah ben, le monde est petit, c'est bien.
Le monde est petit.
Merci. <Ouais. rire>
C'est stimulant de prendre de temps en temps aussi, savoir se ressourcer dans les traditions, comme la tradition juive qui nous précède. Marc-Alain Ouaknin est un rabbin tout à fait de notre temps, de notre époque, et en même temps pétri de la tradition la plus large. C'est un philosophe, hein, philosophe remarquable. Voilà. Ouais. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus, hein, parce que parler d'érotisme, hein, pour parler de Dieu, je trouve que son érotisme à lui nous complique un peu la vie quand même. Bon, il me semble, moi je parlais qu'à moitié, je pense que la parole est un acte plus fondamental dans le fait qu'il se révèle dans la parole, ça me frappe plus pour le Dieu chrétien, et même le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui parle, et il parle par nos voix. C'est remarquable. Mais effectivement, il y a un jeu du désir aussi, un érotisme, un jeu du désir parce qu'il se laisse chercher, parce que nous ne sommes pas satisfaits avec le monde tel qu'il est et qu'on a besoin de plus. Donc on le cherche. Ouais. Merci.